la fin. La rencontre de l'homme et de Dieu doit toujours signifier une pénétration, une entrée du divin dans l'humain et une immersion de l'homme dans la divinité. Mais cette immersion n'a pas la nature d'une annihilation. L'extinction n'est pas l'aboutissement de toute cette recherche et cette passion, cette souffrance et cette extase. Le jeu n'aurait jamais commencé si telle devait en être la fin. La joie est le secret. Apprends la joie pure et tu apprendras Dieu. Quel fut donc le commencement de toute l'affaire? Une existence qui se multiplia pour la seule joie d'être, et qui se plongea en d'innombrables milliards de formes afin de pouvoir se retrouver elle-même innombrablement. Et quel en est le milieu? Une division qui fait effort vers une unité multiple, une ignorance qui peine vers l'influx d'une lumière variée, une douleur en travail pour arriver au contact d'une extase inimaginable. Car toutes ces choses sont des formes obscures et des vibrations perverties. Et quelle sera la fin de toute l'affaire? Si le miel pouvait se goûter lui-même et goûter toutes ses gouttes à la fois, et si toutes ses gouttes pouvaient se goûter l'une l'autre, et chacune goûter le rayon entier comme elle-même, telle serait la fin pour Dieu, l'âme de l'homme et l'univers. L'amour est la tonique. La joie et la mélodie, le pouvoir et l'accord, la connaissance est l'exécutant, le tout infini est à la fois le compositeur et l'auditoire. Nous ne connaissons que les discordances préliminaires qui sont aussi terribles que l'harmonie sera grande. Mais nous arriverons sûrement à la fugue des divines béatitudes.
Mais comment apprendre la joie pure?
D'abord, pour commencer, il faut, par une observation attentive, s'apercevoir que les désirs et la satisfaction des désirs ne donnent qu'un vague plaisir incertain, mélangé, fugitif et tout à fait insatisfaisant. Ça, c'est généralement le point de départ. Alors, si on est un être raisonnable, il faut apprendre à discerner ce qui est désir et à se refuser de faire quoi que ce soit pour satisfaire ses désirs. Il faut les repousser sans essayer de les satisfaire. Et alors le premier résultat, c'est justement une des premières constatations du Bouddha qu'il a écrit dans ses enseignements, quand il a dit « Il y a une joie infiniment plus grande à maîtriser et supprimer un désir » qu'à le satisfaire. Tout chercheur sincère et obstiné, au bout de quelque temps, plus ou moins longtemps, quelquefois très peu de temps, s'apercevra que c'est une vérité absolue. Et que la joie qu'on éprouve à surmonter un désir est incomparablement supérieure aux petits plaisirs fugitifs et mélangés que l'on peut trouver à la satisfaction de ce désir. Ça, c'est le second pas. Naturellement, avec cette discipline continue, au bout de très peu de temps, les désirs seront à une distance et ne vous ennuieront plus. Alors, vous serez libre d'entrer un peu plus profondément dans votre être et de vous ouvrir dans une aspiration vers le donneur de joie, l'élément divin, la grâce divine. Et si vous le faites avec un don de soi sincère, quelque chose qui se donne, qui s'offre et qui n'attend rien en échange de son offrande, on sentira cette espèce de chaleur douce, confortable, intime, rayonnant, qui remplit le cœur et qui est l'avant-coureur de la joie. Après, le chemin est facile.
Mais quelle est la vraie joie d'être?
Celle-là même dont je parle.
Alors ici, quand il parle d'une existence qui se multiplie pour la seule joie d'être, quelle est cette joie?
La joie d'exister. Il y a un moment, quand on commence à être un peu près, où on peut sentir dans chaque chose, dans chaque objet, dans chaque mouvement, dans chaque vibration, toutes les choses qui vous entourent, pas seulement les gens et les consciences, mais les choses, les objets, pas seulement les arbres et les plantes et les choses vivantes, mais simplement un objet dont on se sert, les choses qui vous entourent. Cette joie d'être tel qu'on est, simplement d'être. Et on voit que tout ça, ça vibre comme ça. On touche une chose et on sent cette joie. Mais naturellement, je dis, il faut avoir suivi la discipline dont j'ai parlé au commencement. Autrement, tant qu'on a un désir, une préférence, un attachement, des affinités, des répulsions et tout ça, on ne peut pas. Et tant qu'on trouve des plaisirs, le plaisir, n'est-ce pas, le plaisir vital ou physique à une chose, on ne peut pas sentir cette joie. Parce que cette joie est partout. Cette joie est quelque chose de très subtil. On bouge au milieu des choses et c'est comme si elles vous chantaient toute leur joie. C'est très... Ça, il arrive un moment où c'est très familier dans la vie qui vous entoure. Naturellement, je dois reconnaître que c'est un petit peu plus difficile de le sentir dans les êtres humains parce qu'il y a toute leur formation mentale et vitale qui viennent et qui dérangent ça. Il y a trop cette espèce de, n'est-ce pas, d'âpreté égoïste qui se mélange aux choses. Alors, c'est plus difficile de toucher la joie, là. Mais même dans les animaux, on la sent. C'est déjà un peu plus difficile que dans les plantes. Mais dans les plantes, dans les fleurs, dans toutes ces choses, c'est si merveilleux. Elles parlent toute leur joie. Elles l'expriment. Et je dis, pas tous les objets familiers, les choses qu'on a autour de soi dans tant se sert, il y a un état de conscience. Chacune est joyeuse d'être telle qu'elle est. Alors ça, on sait à ce moment-là qu'on a touché la vraie joie. Et ça, ce n'est pas conditionné. Je veux dire, ça ne dépend pas, ça ne dépend de rien, ça ne dépend pas de circonstances extérieures, ça ne dépend pas d'un état plus ou moins favorable, ça ne dépend de rien, c'est une communion avec la raison d'être de l'univers. Et ça vient, ça remplit toutes les cellules du corps, et c'est pas une chose qui se pense même. On ne raisonne pas, on n'analyse pas, ce n'est pas ça, c'est un état dans lequel on vit. Et quand le corps y participe, il est, n'est-ce pas, il est si frais, si spontané, si il n'a plus aucun retour sur lui-même. Il n'y a plus aucun sens d'observation propre, d'analyse de soi ou des choses. Tout ça, c'est comme un cantique de vibrations joyeuses, mais très, très tranquille, sans violence, sans passion, rien de tout ça. Et c'est très subtil et très intense en même temps. Et quand ça passe, il semble que tout l'univers soit une harmonie merveilleuse. Malheureusement, comme je dis, n'est-ce pas, toutes les choses, les gens, les circonstances, tout ça, avec toutes ces formations mentales et vitales, ça dérange tout le temps. Alors on est obligé de retourner à cette perception si ignorante, si aveugle des choses. Mais autrement, dès que tout ça s'arrête, et qu'on puisse en sortir, tout chante. Comme il dit là-dedans, à la fin, tout chante. Une harmonie merveilleuse. Et c'est tout. La joie, la vraie joie, la joie verte. Ça manque un peu de... Et cette discipline à laquelle, dont j'ai parlé, à laquelle il faut se soumettre, si on la fait avec ce but de trouver la joie, on retarde le résultat. Parce que on y introduit un élément égoïste. On fait pour un but. Et ce n'est plus une offrande, c'est une demande. Et alors, ça vient, ça viendra, mais ça prend beaucoup plus de temps. Quand on ne demande rien, qu'on n'attend rien, qu'on espère rien, que simplement c'est ça. C'est le don de soi et l'aspiration. Et le besoin spontané, sans aucun marchandage. Le besoin d'être divin, c'est tout.
Tu expliqueras cette goutte de miel.
Hein?
Miel ici, là. Quelle sera la fin de toute l'affaire?
Ça? La symphonie?
Non, avant ça.
Oh, le miel! Mais c'est une image. Il dit, si on pouvait s'imaginer c'est simplement pour donner une approche qui soit plus concrète que des abstractions intellectuelles. Il dit, si vous pouvez vous imaginer, par exemple, un rayon de miel, n'est-ce pas? Et alors, il dit, en détail, un rayon de miel qui aurait la capacité de se goûter lui-même. Et en même temps, chaque goutte du miel, non seulement de se goûter lui-même en tant que miel, mais de se goûter lui-même dans chaque goutte, étant chaque goutte du rayon de miel. Et chacune de ces gouttes puisse goûter toutes les autres, soi-même et toutes les autres, et en même temps que chaque goutte ait la capacité de goûter, d'avoir le goût du rayon tout entier comme si c'était lui-même. N'est-ce pas? Alors, ce serait le rayon capable de se goûter lui-même et de goûter en détail toutes les gouttes du rayon, et chaque goutte capable de se goûter elle-même et individuellement toutes les autres, et le rayon tout entier comme une unité, comme lui-même. C'est une image très exacte. Mais enfin, un pouvoir imaginatif.
Non, comme ça j'ai compris, je demande ce que ça signifie.
Ça signifie que c'est ça, n'est-ce pas? Goûter le miel, c'est l'idée, le miel c'est une chose délicieuse, n'est-ce pas? Alors c'est les délices de la joie divine. Et tout à l'heure, n'est-ce pas, quand j'évoquais cette joie qui est dans les choses, spontanée, simple, n'est-ce pas, cette joie qui est au fond de tout, eh bien, pour le corps physique, ça a quelque chose de vraiment... Oh, naturellement, le goût du miel est très rude et grossier en comparaison, mais quelque chose comme ça. Quelque chose qui... d'extrêmement délicieux. Et très simple et très total dans sa simplicité. Très complet dans sa simplicité et pourtant très simple. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'est pas une chose à penser. C'est une chose, il faut avoir la capacité de l'évoquer. Donc, il faut avoir l'imagination. Alors, cette capacité d'évocation, d'imagination, de construction de quelque chose, de création. Alors on peut faire ça, mais rien qu'en lisant, n'est-ce pas, si on a cette capacité, alors on peut comprendre, c'est une analogie qui est une... qui n'est qu'une analogie, mais c'est une analogie qui a vraiment une capacité d'analogie, une capacité d'évocation.
Mais chacun imaginera quelque chose différemment, hein?
Évidemment, mais ça ne fait rien, ça sera bon pour lui. J'avais apporté des questions qu'on m'a posées, mais je crois qu'il est déjà un peu tard. Il y en a une qui est terriblement intellectuelle. Que nous laisserons pour une autre fois. Il y en a une autre. signifie apparence. Et puis il y en a une troisième qui est intéressante, mais à laquelle il faudrait répondre en détail. Et ce soir, il est déjà un peu tard. C'est quelque chose que je vous ai déjà raconté plusieurs fois il y a fort longtemps, mais que je pourrais peut-être vous redire une autre fois. Mais ce sera pour une autre leçon. Ici, n'est-ce pas la question qui pourrait, à laquelle on peut répondre très facilement, c'est un texte de moi où il est écrit « C'est une grande erreur de supposer que la volonté divine agit toujours ouvertement dans le monde. » Et puis, dans la synthèse des yogas de Sri Aurobindo, « Si nous voyons l'unité partout, si nous reconnaissons que tout arrive par la volonté divine, etc. » Alors, et une autre chose de moi dans prière et méditation, c'est toi qui agis en toutes choses. Celui qui est assez proche de toi pour te voir en tout acte, sans exception, c'est transformer tout acte en bénédiction. Et alors on me demande comment réconcilier ces contradictions. Moi je ne vois aucune contradiction. Parce que la première phrase, où il est dit « C'est une grande erreur de supposer que la volonté divine agit toujours ouvertement dans le monde », je dirais qu'il est extrêmement rare qu'elle agit ouvertement. Elle agit toujours, mais pas ouvertement. Et quand elle agit ouvertement, c'est ça que les hommes appellent des miracles. Mais c'est une chose extrêmement rare. La plupart du temps, elle n'agit pas ouvertement, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Elle n'agit pas ouvertement, c'est tout. Alors là, il n'y a pas de contradiction. C'était tout ce que je voulais dire. C'est une contradiction tout à fait superficielle et de l'incompréhension des mots, n'est-ce pas? La volonté divine agit, mais pas ouvertement. Quand elle agit ouvertement, eh bien les hommes appellent ça des miracles. Voilà. Mais ça ne l'empêche pas d'agir. Les autres questions, je les garde pour une autre fois. Parce qu'elles demandent une des explications très intellectuelles et l'autre, un récit qui sera peut-être un peu long.